Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est très 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 heureux d'être avec vous comme chaque jour jusqu'à 15h et d'être également avec Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
Rémi qui a mis son petit gilet et oui, quand il met son gilet...
C'est que c'est sérieux,
normalement,
attention.
Ça va être une bonne émission. Voilà. C'est le retour dans l'émission, on l'a pas eu depuis longtemps, de Julien Damon, notre sociologue, prof à Sciences Po et à HEC. Salut Julien.
Très 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 heureux. J'ai un trait de plus qu'Estelle là.
Ah bon, écoutez, très bien.
Pas mal.
Nous sommes également avec Yael Mélu, l'ancienne avocate et désormais présidente de l'association Femmes et Libres. Salut Yael.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Et le journaliste RMC Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut tout le monde. Moi je déciderai à 14h si je suis heureux ou pas.
Bah, vous n'êtes jamais heureux, donc non, la décision est déjà prise.
Moi j'aime d'abord voir comment les choses évoluent et après on décide.
Ce qui vous rend heureux d'ailleurs, Daniel.
Plein de choses et tu le sais très bien.
Écoutez, très bien. Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, la tentation. On va parler effectivement de cette motion de censure qui pourrait être déposée en cas de 49-3 sur le projet de réforme des retraites, faire tomber le gouvernement. Est-ce que ce serait la bonne solution? On vous attend au 32-16 à midi et demi. C'est J-100 aujourd'hui avant les Jeux Olympiques. Pour vous, est-ce que c'est un succès ou un fiasco annoncé? On sera avec un invité, c'est Olivier Giraud, champion olympique de handball en 2008 et directeur national de l'UNSS. À 13h, la grève des éboueurs qui se poursuit dans plusieurs villes de France. Faut-il privatiser les services municipaux comme le ramassage des poubelles, les jardiniers ou encore les cantines scolaires? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et cette question, doit-on retirer notre argent des banques après la faillite d'une grosse banque américaine? Et puis à 14h, harcèlement, violence, troubles psychologiques, l'école doit-elle vraiment accueillir tous les enfants?
RMC, Estelle Midi.
1005 sur RMC et on va commencer Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est bien sûr le projet de loi sur la réforme des retraites qui devrait être voté jeudi à l'Assemblée nationale. Enfin, voté si le gouvernement n'a pas recours au 49-3. En tout cas, l'ambiance s'annonce très tendue dans l'hémicycle. Le député centriste Charles de Courson est même prêt à déposer une motion de censure en cas de 49-3. Écoutez.
C'est une idée que dans plusieurs groupes politiques nous caressons, qui serait de faire une motion de censure transpartisan. C'est-à-dire pour tous ceux qui défendent une véritable démocratie. Vous voyez, on a des différences, nombreuses entre nous, mais de ne pas laisser passer un texte qui est un tel déni de démocratie. Et je pense que c'est l'intérêt de la démocratie, l'intérêt du peuple français. Ça dépend pas que de moi, ça dépend de beaucoup de discussions qui ont lieu depuis plusieurs jours dans cette hypothèse du recours au 49-3.
Rémi Barré, concrètement, que se passerait-il en cas de motion de censure?
Alors, si Elisabeth Borne décide d'appliquer l'article 49.3 pour faire passer le projet de la majorité, le texte de la réforme des retraites, une motion de censure pourrait donc être déposée dans les 24 heures qui suivent par les députés de l'opposition. Pour cela, il est nécessaire qu'un dixième des membres de l'Assemblée appose sa signature sur ce texte. Vient ensuite le vote de cette motion de censure dans les 48 heures qui suivent. Si la majorité absolue des membres de l'Assemblée, soit au moins 289 députés, votent ou même s'abstiennent sur la motion de censure, eh bien la motion est adoptée selon l'article 50 de la Constitution. Le Premier ministre, la Première ministre, doit alors remettre la démission de son gouvernement. Et à partir de ce moment-là, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il est le seul à détenir ce pouvoir, provoquant ainsi de nouvelles élections législatives. Élections qui doivent se tenir entre 20 et 40 jours plus tard, voilà. Tout est très précis.
Autant dire que si ça se passe, ça va être quelque chose. Rémi Barré, alors faire tomber le gouvernement, est-ce que c'est la bonne solution, Yael Mélul?
Je souris parce que je me réjouis par avance de ce scénario, Rémi, que tu viens J'étais déroulée.
C'est arrivé une seule fois sous la 5ème République, en 1962.
Bah oui, mais on n'a jamais été aussi près.
C'est aussi une des premières fois qu'on utilise ce véhicule législatif du 47.1. Donc, tant qu'on est dans les nouveautés, pourquoi pas. Vous avez remis l'interview, une partie de l'interview de Charles de Courson ce matin avec Apolline de Malherbe.
Alors, c'est passionnant.
Alors moi j'ai tout vu, j'ai savouré chaque mot qu'il a dit, chaque phrase, parce qu'on peut pas dire qu'on est affaire à un zadiste. Hein,
non, il est centriste.
Voilà, il est centriste. Il est réputé comme un député. Il est très respecté. Hein,
oui, tout à fait.
Il est réputé comme quelqu'un de sage. Et vraiment, moi je l'ai trouvé, mais absolument admirable. Et je le rejoins dans tous ses constats. Il faut, enfin alors. Et je rajoute à cela que de mon point de vue.
Vous êtes centriste, vous, maintenant?
Là, pour le coup, oui.
Ah, voilà.
Mais en même temps.
C'est fini, Mélenchon, tout ça.
Non, mais je ne suis pas mélenchoniste.
Bon. Je
pense qu'il faut urgemment mettre fin à cette gouvernance par le mensonge. Au travers de cette réforme, on assiste à ce qu'a admirablement bien démontré Charles de Courson ce matin, à un déni de démocratie qui est scandaleusement orchestrée par Macron et par ce gouvernement. Déjà, à la base, on a un déni de démocratie par le choix même du véhicule législatif, le 47.1. Déjà, rien que ça, on est dans le déni de démocratie. 50 jours en tout et pour tout. Pour débattre, enfin, si on peut appeler ça un débat,
enfin, si
dans la chambre haute et la chambre basse. Ce n'est juste pas admissible
en
réalité.
Tu vas beaucoup trop loin.
Juste, je termine. Après,
c'est vrai que le centrisme s'éloigne un peu.
Je termine. Il y a un détournement absolument scandaleux de cet outil du 47.1. C'est la première fois qu'on utilise une loi.
Le 47.1, on le rappelle, c'est pour raccourcir les débats, en fait.
C'est le fait de coller une réforme des retraites à un projet rectificatif de loi de financement de la sécurité sociale, d'accord ? Donc un projet aussi capital, on le colle à un loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un déni de démocratie parce que Macron, dès le début, a méprisé la colère des Français, des travailleurs et des travailleuses qui ont manifesté.
C'est très long quand même. Hein.
Bah, vous pouvez parler, vous.
J'ai pas fini. Et en refusant, dernièrement, de recevoir l'intersyndicale.
Mais après, je c'est pas son rôle, Emmanuel Macron.
C'est son rôle. C'est sa réforme.
Non,
c'est pas son rôle.
Mais non, la première ministre, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui. Voilà. Excusez-moi, les affaires intérieures du pays, non, c'est la première ministre.
Bah oui, mais c'est quand même son.
Bah non.
Son, bah c'est sa réforme.
Bah non.
Alors on nous dit, c'est son projet, j'ai été élu pour ça, mais quand il faut recevoir l'intersyndicale, bah non, c'est pas moi.
Daniel Riolo. Je vous sens en profond désaccord avec notre complètement.
J'aime ma démocratie et j'aime ma République. Il y a un seul article que je n'aime pas dans notre Constitution. Ce n'est pas le même article que toi, parce que je trouve que le débat parlementaire, j'ai même pas envie qu'on revienne dessus, parce qu'on s'est trop bagarré là-dessus. Franchement, tu sais très bien, Yael, qu'il y en a à dire d'un côté comme de l'autre. Certes, d'un côté, on a voulu raccourcir, et je vais dans ton sens. De l'autre, on a tout fait pour planter les débats et pour foutre le bordel. Donc, je pense que des deux côtés,
un partout, la balle au centre. Ok. Bon.
Qu'est-ce que tu résumes bien? Bravo, Estelle. Donc, passons à autre chose. Je disais, le seul article qui, moi, ne me plaît pas, c'est le 49.3.
Ah oui.
La clé, elle va être là, en fait. Parce que si on parle, et si la question qu'on est en train de poser, c'est l'éventualité d'une motion de censure, c'est s'il y a le 49.3. Et quand je disais, j'aime ma démocratie, j'aime ma République, c'est que, au final, malgré toute cette ambiance délétère qu'il y a eu, le débat, il a existé. Même dans la rue, il a existé. Tu peux pas dire que le débat n'a pas existé.
Ah bah, il a existé, tout le monde est contre. Ben voilà.
Justement, j'y viens. Néanmoins, si à l'Assemblée, on ne sait pas trop si ça va être voté, on est en train de compter, les calculettes sont sorties, les voix.
Il pourrait y avoir un conseil des ministres exceptionnel jeudi, ce qui tendrait à prouver qu'il va y avoir un 49.3.
Si c'est voté, ok, on enregistre, c'est terminé. S'il y a le 49.3, oui, cet article, je ne l'aime pas. Rappelons qu'il avait été mis là par les fondateurs de la 5ème République parce qu'il y avait les vieux souvenirs de la 4ème, de tous les blocages et des lois qui ne pouvaient jamais être votées. Je trouve qu'il n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Je serais pour qu'on retire cet article-là parce que, effectivement, c'est un passage en force qui va se heurter à ce que tu disais, à savoir à l'idée que tout le monde est contre. Et là, derrière, il peut y avoir motion de censure. S'il y a motion de censure, va savoir si elle sera votée, parce que là, pour le coup, comme disait Charles de Courson, ça voudrait dire que ça doit être transpartisan et que des gens de tous les bords politiques veulent faire tomber le gouvernement.
Laurent Jacobelli, le député RN de la Moselle, dans un
attention, s'il tombe, bien fait pour la tronche du gouvernement et pour la tronche de Macron.
Ce ne sera que là, justice.
Là-dessus,
hein,
je te rejoins. Je te rejoins complètement.
Oh,
et qu'on reparte aux urnes. Et après, il y avait un autre.
Il y a du changement. Il y a du changement.
Il n'y a pas de changement. Je suis pour le respect de la loi et de la démocratie.
Mais une fois que les urnes ont parlé, même
exactement.
Si
c'est moi, c'est ce que je dis depuis le début.
Les
gens ne veulent pas entendre. Moi, j'ai jamais dit que cette réforme était formidable, qu'il fallait la défendre. Je dis juste, on s'est réjoui à un moment qu'il n'y ait pas de majorité absolue, parce que ça empêche d'écraser l'Assemblée. Absolument. Il y a eu les discussions. Bon. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Et s'il y a 49-3, si je suis député, je vais à la motion de censure. Ah je déteste cette histoire de passage en France.
Bravo.
Je ne veux pas en entendre parler. Mais j'ai jamais dit le contraire.
Mais ben, on a mal compris.
Non. C'est parce qu'on veut jamais écouter les nuances. C'est pénible.
Ah oui,
c'est
vrai qu'en termes de nuances,
oui, c'est de votre faute.
C'est ça.
Julien Damon. L'autre question qui aurait pu être posée, c'est celle qui a été réclamée par certains syndicats du référendum.
C'est trop complexe.
J'aurais bien aimé voir, moi, les syndicats, si dans le référendum on posait la question est-ce que vous êtes pour la suppression des régimes spéciaux. Je veux bien voir si là ils auraient été contents des résultats du référendum.
Oh, bah, ça aurait été oui, en plus. Bon.
Bah, évidemment.
Alors, notre sage sur le plateau aujourd'hui, c'est Julien Damon. Attendez, prof à HEC, à Sciences Po, tout le monde ne peut pas en dire autant aujourd'hui.
C'est pas pour ça que j'ai raison.
Julien Damon, quel est votre avis, vous, sur cette motion de censure qui risque quand même d'avoir lieu si jamais il y a un 49-3? Est-ce que justement ce serait la victoire du peuple et des syndicats finalement ?
Mon premier sentiment, c'est qu'on doit se féliciter de l'instant démocratique que nous vivons. J'adore. Les Français n'ont jamais autant parlé de leur constitution. Et nous avons même autour de ce plateau des spécialistes de différents articles. Eux, on découvre même des dispositions que personne n'avait jamais entendu parler. Donc ça, c'est très bien. La deuxième chose, c'est que, oui, une partie de l'opinion, peut-être une très grande partie de l'opinion, une très grande majorité de l'opinion, souhaiterait faire tomber ce gouvernement à l'occasion d'une réforme. Répétons-le, le mot n'a pas été prononcé depuis le début de notre rencontre, des retraites. Et je trouve que, depuis le début de ces débats sur les retraites, nous avons en réalité une mobilisation contre le gouvernement. Donc ce serait l'apogée de ce qui se passe depuis plusieurs mois. Et ça aboutirait à quelque chose d'assez cocasse de mon petit point de vue, c'est que si un gouvernement devait être mis en place, une de ses priorités devrait être de remettre sur le tapis le sujet de la réforme des retraites.
Mais une autre
donc
réforme
une autre réforme. Je rappelle
une réforme
que
à point, en par 2000, exemple.
Bah, pourquoi pas, mais la réforme à point, si par point on entend la réforme de 2019 qui était au Parlement, qui est une réforme d'unification, d'universalisation des systèmes, elle était beaucoup plus ambitieuse que celle qui fait qu'aujourd'hui tout le monde se crêpe le chignon. Mais bon, il y a une vérité très simple, c'est la progression de l'espérance de vie, et ceci doit nous conduire à, hélas, il faut le souligner, travailler davantage. Donc là, on s'écharpe, on se bagarre, on verra bien ce qui se passe jeudi. Si on fait tomber le gouvernement, M. Mélenchon, une nouvelle fois, dira qu'il veut être Premier ministre, on fera des élections, il va tout de suite demander à être nommé Premier ministre, qu'on passe même pas par la case élection, qui ne s'impose pas d'ailleurs, puisqu'il s'agit simplement de changer de gouvernement. Mais en tout état de cause, tout ceci, c'est de la politique bien tranquille, et ça met de côté le sujet crucial des retraites, et ça, c'est embêtant.
Alors, on est avec David, et vous êtes très très nombreux à nous appeler au 32-16. Alors, je ne sais pas si vous êtes très nombreux à vouloir faire tomber le gouvernement, mais en tout cas, vous êtes extrêmement nombreux au standard. Il y a David, notamment, qui nous appelle de Rognes, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour David.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Alors, est-ce que faire tomber le gouvernement, ce serait la solution dans ce projet de loi de réforme des retraites ?
Oui, parce que je rejoins un petit peu ce qui a été dit, c'est qu'on est face à un déni démocratique. Je pense que le gouvernement, il faut qu'à un moment donné, se remémore les dernières élections. Monsieur Macron n'a pas été élu pour son programme, il a été élu pour barrer le Rassemblement National.
Il arrive en tête du premier tour,
mais il ne rassemble pas la majorité des Français. Beaucoup ont voté pas pour Monsieur Macron, mais ont voté pour faire face à Marine Le Pen. Donc déjà, là-dessus, effectivement, c'est pas son programme qui l'a fait élire. Après, moi, je reprends un petit peu ces motions de censure, et je pense que même au niveau des députés, ils ne sont plus là pour le peuple, mais ils sont là pour leur parti. Pourquoi ? Parce que les différentes motions de censure qui ont été mises en place, certains avaient peut-être l'idée, effectivement, de faire tomber le gouvernement parce qu'ils étaient d'accord avec la motion de censure, mais par exemple, parce que c'était le Rassemblement National qui avait mis la motion de censure, ben, la NUPES ne votait pas pour ne pas faire en sorte que le Rassemblement National sorte vainqueur, et inversement.
On est d'accord que c'est pas très malin comme attitude.
Mais oui, c'est dogmatique.
On est d'accord que quand les idéologies prennent le pas, et puisque tu vous faites référence, pardon, au fait que peu importe l'idée d'un côté comme de l'autre, surtout on ne vote pas une idée qui vient du camp adverse juste parce que c'est le camp adverse qui la propose.
Mais là, ça va être différent.
On est quand même dans la stupidité la plus extrême.
Ouais, mais là manifestement,
qui est souvent
différent.
L'œuvre de l'ANUPS.
Là, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Parce que c'est Charles de Courson.
Le but commun, ce serait de faire tomber.
Oui, et parce que c'est Charles de Courson. D'habitude, c'est ou l'ANUPS ou le RN qui met ses motions. Et donc, effectivement, l'ANUPS met contre le RN contre l'ANUPS. Bref.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, comme c'est Charles de Courson, c'est un centriste, il peut rassembler et le RN et l'ANUPS.
Eliott aussi, hein. Et Outre-mer, les députés d'Outre-mer aussi, hein. Ils veulent se joindre. Donc, on est vraiment dans quelque chose, on va dire, d'où? Voilà, qui ne posera pas de difficultés en tous les cas.
Donc c'est plutôt malin d'avoir mis Charles de Courson au centre de ça. David, mais vous, en fait, ça vous plairait finalement que le gouvernement tombe et puis qu'il y a un autre projet de réforme des retraites, parce que Julien Damon l'a dit très justement, quel que soit le gouvernement, de toute façon, il y aura un autre projet.
Mais moi, je serais pour qu'il tombe et je serais même pour qu'on reparte sur une nouvelle Assemblée nationale. Parce que comme je le disais à l'instant, à un moment donné, le choix des gens qui les ont élus ne sont pas respectés parce que on veut pas associer potentiellement à une victoire de l'un ou l'autre. Et on parle plus de notion de parti. Mmh. On a une préférence pour son parti. On veut penser parti avant de penser citoyen.
Les gens peuvent pas tous être d'accord. C'est normal que on est dans une société qui est de plus en plus fracturée. Ça se retrouve à l'Assemblée. Oui. Ça veut dire, je veux bien entendre quand vous dites que tous les gens n'ont pas voté Macron pour cette réforme parce qu'il y en a un paquet qui ont voté pour éviter le
ça,
RN.
C'est vrai.
Le jeu démocratique. De toute façon, il faut déterminer une majorité.
Il a dit que ce vote l'obligeait à faire des concessions. Il l'a dit au soir du deuxième tour.
Ce vote-là ne lui a pas donné plein pouvoir. Mais, et l'argument qu'on nous donne, mais jusqu'à ad nauseam, c'est nous dire il a été élu pour ça. Non, ce n'est pas vrai. Et ils le savent.
C'était dans son programme.
Chers amis, ça c'est valable comme argument. Quoi qu'il ait proposé, quoi qu'il ait fait, on aurait pu lui dire ah, vous n'avez pas été élu pour ça.
Tu ne peux pas dire ça. Julien a raison.
Absolument, je suis d'accord avec ça.
Mais d'autant que après il y a quand même eu les législatives, il a perdu aux législatives. On parle de majorité présidentielle.
On parle de majorité le plus représenté.
Pas du tout. Il est en minorité présidentielle.
Quand même non,
il a une majorité relative.
Il a une majorité relative.
Excusez-moi, mais très rapidement, je vous coupe. J'aimerais qu'on prenne notre invité. On va remercier David qui nous a appelé au 32-16. Notre invité sur ce débat, c'est Laurent Jacobelli. Il est député RN de la Moselle. Bonjour Laurent Jacobelli.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors on parle de cette motion de censure qui serait déposée par Charles de Courson si jamais le gouvernement avait recours au 49-3. Est-ce que les députés du RN pourraient se joindre à cette motion de censure ?
Bien évidemment, vous savez, depuis le début de cette réforme des retraites, nous on vote pour l'intérêt général, pas en fonction des intérêts partisans. J'entendais votre auditeur à l'instant. C'est vrai que c'est surprenant de voir Monsieur Mélenchon demander un référendum. Ses équipes à l'Assemblée nationale n'ont pas voté la demande de référendum faite par le Rassemblement national.
Alors qu'ils avaient la même et qu'elle n'a pas été tirée au sort. C'est vrai.
C'est le comportement d'un gamin de 5 ans qui ne peut pas jouer le premier au jeu et qui refuse et qui abandonne la partie. Honnêtement, nos électeurs nous regardent et je crois qu'ils ne sont pas très fiers de ce type d'attitude. Nous, on est responsables. Voilà. Nous déposerons probablement une motion de censure aussi si le gouvernement a recours au 49-3.
Vous savez très bien que votre motion de censure, elle a moins de chances d'être adoptée que celle de Charles de Courson qui est centriste.
Reconnaissez que c'est regrettable parce que pour le coup, ça donne une image très sectaire.
Bah, c'est peut-être regrettable, mais pourquoi vous déposeriez une motion alors qu'il y en a déjà une qui va être déposée?
Parce qu'on a aussi des choses à dire, mais une fois encore, ce n'est pas acté pour l'instant. Sachez-le, nous voterons probablement toutes les motions de censure. Parce que le gouvernement joue avec le feu, il n'est pas anormal qu'il se brûle à la fin. On nous explique que le 49-3 doit être utilisé en cas de blocage. Et des blocages, il y en a eu, et notamment de la part du gouvernement, qui a par tous les moyens essayé de contourner l'Assemblée nationale. Mais là, ce n'est pas du blocage. Si Mme Borne dégaine le 49-3, c'est parce qu'elle pense qu'elle n'aura pas de majorité. C'est-à-dire que c'est un véritable déni de démocratie. Et là, j'espère que toutes les oppositions seront responsables, parce qu'une fois encore, nous représentons les Français à l'Assemblée nationale, les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, et que l'un des derniers outils que nous avons en notre possession, c'est ce 49-3, c'est contre ce 49-3, la motion de censure. Et donc, j'espère, pour le coup, que chacun ne regardera pas son propre nombril, que la NUPES ne fera pas son cinéma, mais qu'au final, elle ne fera pas la courte échelle au gouvernement, et que les LR ne se laisseront pas séduire par des promesses fumeuses de la part du gouvernement. On verra bien, mais les masques vont tomber, et ça sera, si ça a lieu, un moment très intéressant.
Laurent Jacobelli, est-ce que vous avez des députés RN qui ont été approchés par le gouvernement pour faire pencher leur voix en faveur de la réforme des retraites, ou ils n'ont pas osé ?
Non, je ne crois pas, mais je crois que l'opposition est, que nous montrons depuis le début est assez déterminée, assez responsable. C'est-à-dire que nous n'avons pas déposé des milliers d'amendements pour ralentir le processus. Nous, on voulait un véritable débat. Nous avons proposé des amendements sérieux. Nous avons voté la motion de rejet qui n'était pas la nôtre. Nous avons proposé, nous, une motion référendaire. Donc je pense que le gouvernement sait à qui il a affaire et qu'il ne joue pas assez avec nous. Je pense qu'il sent que la patte est plus malléable du côté de certains LR.
Oui. Eh ben merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous. On va voir ce qui va se passer jeudi. Ça va être certainement une folle journée. Finalement, on a l'impression quand même, Julien Damon, que quoi qu'il se passe, le gouvernement sera perdant en fait.
Bah non, si la loi est votée.
Qu'est-ce qu'il s'appelle Julien Damon maintenant, Daniel? C'est incroyable.
Hier, on en parlait. Avec, non, mais on en parlait avec hier Jérôme Lavrieux, quand même bien implanté dans l'Assemblée, etc. Là, c'est le gouvernement. Ils appellent tout le monde. Ils promettent tout et n'importe quoi pour. Oui, mais derrière, on le saura. C'est-à-dire que tu sauras que tel député il a voté parce qu'on lui a promis 8 ronds-points dans
ce que tu crois que
ça c'est la dimension sur laquelle je voulais dire un petit mot, c'est que la motion de censure elle sera pas votée en fonction de l'intérêt général, de la beauté du geste, etc. Elle sera votée par chacun des députés en fonction aussi de sa probabilité de se faire réélire.
Oui.
Et là, en la matière, je suis plutôt optimiste du côté gouvernemental pour dire que la motion de censure n'aura pas toutes les voix. Non, mais du côté des Républicains ou des centristes, même s'il y a autour de la table des coursoniens, je l'appelle néologisme, je pense que plein qui vont se dire je vais paumer ma place, je
mais moi,
vais
j'en suis pas
le gouvernement.
Moi j'en suis pas si certaine du tout parce que parce que les députés quand ils vont dans leur circonscription ils se font engueuler eux par les gens de leur circonscription qui veulent pas de la réforme.
Ils ont d'abord peur de pas se faire réélire.
Mais juste moi j'aurais plus peur pour eux qui votent la réforme en défaveur, en contradiction avec les gens de leur circonscription que l'inverse en réalité.
De quoi alors?
Alors, mais attendez, mais est-ce que vous
croyez et si on retourne aux urnes,
très sincèrement que jeudi, si la loi elle est votée à l'arrache, tout va s'arrêter comme ça. Non, les mouvements sociaux vont s'arrêter, les grèves, les manifs, ça va s'arrêter. Hein.
Mais avec la motion de censure non plus. Hein,
on va prendre en ligne Vincent qui nous appelle de Rueil-Malmaison, qui est conducteur de car. Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous Vincent. Alors Vincent, vous ne voulez pas faire tomber le gouvernement vous?
Non, moi je crois qu'un gouvernement qui a été
c'est l'écart Macron.
Un gouvernement qui a été élu doit pouvoir mener sa politique. Quant au projet de résolution de faire tomber le gouvernement comme le veut le député
Charles de Courson,
il faut quand même rappeler que ce monsieur c'est quand même son 7e mandat. Et que, en plus, il a été élu avec une abstention de plus de 50%. Ça, c'est un déni de démocratie.
Ah, bah non, non, pas du tout.
Démocratie,
bah, il a été élu.
Oui, non, mais d'accord, mais il a été élu avec 50% d'abstention. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un électeur sur deux qui, dans sa circonscription, n'a pas été voté.
Mais donc, oui, mais excusez-moi, mais les gens, on les séquestre pas chez eux, ils ont qu'à aller voter.
De déni de démocratie, il faut déjà commencer par balayer devant sa porte.
Mais c'est pas tout à fait pareil, Vincent, parce que les gens, encore une fois, ne sont pas empêchés d'aller voter. Si les gens ne votent pas, c'est leur problème. Après, ils peuvent pas critiquer le résultat des urnes, pour le coup. Mais c'est pas un déni de démocratie, on n'empêche personne d'aller voter.
Non, mais Estelle.
Oui.
Lors de la présidentielle, le président Macron a été réélu. On aime, on n'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas son programme. 30% des gens qui étaient inscrits sur les listes électorales n'ont pas jugé bon d'aller voter. Oui. Ça a été une erreur monumentale.
Mais tant pis pour eux. Vincent.
Si ne serait-ce que 10% s'étaient déplacés, on n'aurait pas eu.
Et Vincent, refaites.
Ils avaient qu'à se déplacer.
Vous refaites l'histoire et l'élection. Si les gens ne veulent pas aller voter, ça les regarde.
Il faut veiller matin, midi et soir au déni de démocratie. Mais il faut aussi que les gens prennent la responsabilité.
Mais on est d'accord.
Ah, ça, d'accord.
Ça, je suis d'accord avec vous. Ils ont qu'à y aller.
C'est trop facile de dire, de vouloir refaire le match. C'est trop facile.
Mais c'est trop facile d'avoir cette vision aussi là aujourd'hui. Hein. Non, parce que on avait quand même un choix un peu compliqué. Hein, il faut le rappeler. Hein. C'était Macron ou Marine Le Pen, et que donc pendant l'entre-deux tours, c'était le barrage. Attention, c'était le danger de mort. Moi, je me souviens, c'était un chantage, mais absolument.
Attends, mais si les gens s'étaient déplacés au premier tour, il n'y aurait peut-être pas eu ce choix au deuxième. Donc
si les gens n'étaient pas aussi dégoûtés de la vie politique, ils reviendraient peut-être aux urnes.
Mais là, on revient.
Tu peux pas reprocher. Il y a une offre politique qui couvre à peu près toutes les idées qui peuvent être imaginées.
À un moment donné, il faut aussi que les politiques se remettent en question. Pourquoi il y a autant d'abstention? Ah bah oui, alors, c'est pas tout le temps la faute des autres. Hein. Voilà, faut savoir se remettre en question.
L'offre politique,
par exemple, les jeunes. Par exemple, les jeunes, on leur reprochait de ne pas avoir justement
d'aller chez Carrefour et de dire oh mais il y a pas le produit que je veux.
Bah absolument.
Bah tu iras chez Monop.
Bah voilà, mais j'irai ailleurs. De la même manière, on reproche aux jeunes de pas aller voter, de l'abstention. Et maintenant, on leur reproche de manifester.
Bon, écoutez, on change de débat. Okay. On va changer de débat. C'était passionnant. Et de toute façon, on va reparler de cette réforme des retraites d'ici jeudi, parce que ce qui s'annonce va être forcément passionnant. Mais en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, faire tomber le gouvernement. Est-ce que ce serait la bonne solution dans cette réforme des retraites, Rémi?
Oui, et c'est un oui massif pour 69% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Voilà. Merci auditeur.
Vivement jeudi.
Ça dépend pour qui.
Oui, vivement jeudi et vivement les Jeux Olympiques. Pourquoi je vous dis, c'est parce qu'on est à J-100 des JO de Paris. Est-ce qu'à votre avis ça va être un succès ou un fiasco? On sera dans un instant avec Olivier Giraud, directeur national du sport scolaire et champion olympique de handball en 2008. Et puis on sera évidemment avec toute la bande. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 33, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et dans un instant, avec toute la bande, Rémi Barry, Julien Damon, Yaël Mellul, Daniel Riolo et notre invité Olivier Giraud. On est ravis de l'accueillir, directeur national du sport scolaire et champion olympique de handball en 2008 et un palmarès non comme le bras. Salut Olivier.
Salut.
Et je vous ai invité Olivier, pourquoi? Parce qu'on va parler de ça.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-500.
J-500 et on a hâte bien sûr de ces Jeux Olympiques à Paris qui démarreront le 26 juillet 2024 et selon un sondage Harris Interactif pour RMC, 56% des Français, plus de la moitié donc, pensent que les JO sont une bonne nouvelle pour le pays, mais, parce qu'il y a un mais, moins d'un Français sur quatre est tout à fait confiant sur la capacité de la France à organiser cet événement. Rémi, c'est pas encore gagné.
Allez, on dira que les Français s'inquiètent et doutent. D'après cette étude, tu l'as dit, étude exclusive RMC, ils sont seulement 22% à penser que la France sera prête à temps pour ces JO en termes d'infrastructures, de logements ou de transports. Ils ne sont guère plus nombreux, hein, 27% à estimer que la France est capable de gérer un événement de cette ampleur, notamment en termes de sécurité. Enfin, près d'un Français sur deux, 49%, a peur que les JO coûtent cher à la France. Des Français qui ont envie de ces JO, mais qui ont vraisemblablement besoin d'être rassurés.
Eh bien, pour les rassurer, Olivier Giraud.
C'est pas Anne Hidalgo qui va les rassurer. C'est
je ne sais pas sur quel dossier elle pourrait rassurer. Enfin, ça, c'est un autre débat. On parlera des éboueurs dans un instant, mais ça n'a rien à voir. La question qu'on se pose aujourd'hui, Olivier, à 500 jours des JO, est-ce que c'est un succès ou un fiasco annoncé? Les Français ont peur, Olivier Giraud.
Honnêtement, je pense qu'il faut toujours se poser des questions lorsqu'on organise un grand événement. Et ce que les Français ne savent pas, parce que bon, on n'est pas un pays où on voyage beaucoup, c'est-à-dire que si on pense, on parle à 10 Français, leur demander combien ont vu réellement les Jeux en direct, une organisation, pas seulement l'événement sportif, mais toute l'organisation qui est autour des Jeux, je pense que très peu. Je pense que ce qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte que c'est la plus grande compétition qui existe au monde, qui va arriver chez nous. Et donc, c'est le monde qui va arriver chez nous. Et souvent, on a ce réflexe de comparer un grand événement comme les Jeux Olympiques à une Ligue des Champions ou à une Coupe du Monde.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir du tout. Ce sont des sensibilités totalement différentes. C'est le monde entier qui va venir à Paris. Et c'est normal qu'on soit inquiet. Mais si je reprends un événement qui s'est passé moyennement, c'est l'accueil de la Ligue des Champions.
Ah non, c'est pas moyennement, Olivier. Oui. C'est catastrophique, le vrai mot.
Et ben c'est la différence, c'est qu'il faut savoir que quand on prépare un grand événement et quand on veut l'accueillir, et ben il faut du temps. Il faut du temps et
je pense. Mais est-ce que 500 jours?
Mais oui, mais 500 jours, mais on sera largement prêt. C'est-à-dire que
on arrive déjà pas. Enfin, quand on va à Paris, on n'arrive déjà pas à gérer la gare des éboueurs. Il y a la grève de la RATP une fois sur deux.
Les gares sont des coupe-gorge.
Voilà.
Le Champ de Mars est un coupe-gorge.
En termes de sécurité,
la saleté va nous manger les yeux bientôt.
Ouais, toi en fait tu vois les problématiques qu'il y a tous les jours comme il y a dans certains pays quand on fait les jeux,
se dire que c'est pas Astérix, non, mais,
si tu me dis
non, mais
c'est pas Astérix, mission Cléopâtre, je signe, prends un exemple tout simple en termes de sécurité.
Ouais.
La France est mieux dotée en termes de sécurité que le Brésil. C'est-à-dire que les jeux au Brésil, tout le monde se posait la question, parce que effectivement.
Aujourd'hui, tu veux dire?
Effectivement, ouais, au Brésil.
La situation de Paris, elle est.
Je suis pas d'accord.
C'est Rio, quand même.
C'est-à-dire qu'à Rio, t'as carrément les favelas qui sont à l'intérieur de la ville. À l'intérieur de l'événement.
Oui, mais eux, ce qu'ils ont fait pour contrer ça, ce sont des mesures qu'on ne prend pas dans nos pays.
Non, mais tu vois, je trouve qu'on est un peu dur avec
nous-mêmes. Ils ont mis des murs, hein.
C'est-à-dire qu'on a cette capacité à anticiper ce qui pourrait se passer. Effectivement,
on est à 500 jours,
mais je me pose même pas la question. Se dire que tout peut arriver lors d'un événement. En fait, tu n'es pas maître de l'événement avant qu'il arrive.
Ah bah, il vaudrait mieux qu'on le soit, maître de l'événement, Olivier, quand même.
Mais ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture, par exemple, d'habitude, c'est une super idée hein, de Paris. Tout le monde dit, l'idée elle est géniale. C'est de faire une cérémonie d'ouverture grandeur nature sur la Seine. Ça va être magnifique, ça. Ok, personne n'a doute là-dessus. Sauf que d'habitude, une cérémonie c'est dans un stade. C'est beaucoup plus facile de contrôler un stade que 10 kilomètres. De berge de Seine, en fait. Et ça, c'est une inquiétude. Et en plus, ça va coûter une fortune.
Ah, c'est une inquiétude et c'est un grand défi. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est un petit peu... Il y a deux choses que tu ne dois pas rater. Et la cérémonie d'ouverture, c'est une des grandes particularités. Ouais. C'est-à-dire que quand tu réussis ta cérémonie d'ouverture, tes Jeux, ils sont lancés. On se posait la question, par exemple, quand on a vu la cérémonie d'ouverture de Pékin, est-ce que Londres, comment ils vont faire avec un budget beaucoup plus simple? Ils ont fait différemment. Après, nous, cette idée qui est partie de le faire sur la Seine, c'est une très bonne idée, mais vous avez raison, et t'as raison sur quelque chose, la sécurité va être un des gros enjeux. Mais par contre...
J'ai raison aussi sur le prix, c'est cher.
Oui, le prix c'est cher, mais c'est assez marrant parce que le sport c'est cher. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller voir un très grand événement ou un concert, il va pas se poser la question si le billet il est cher. Il se pose pas la question. Là, c'est le plus grand événement sportif.
Non, mais c'est cher pour vous, les contribuables. C'est ça que je veux dire.
Mais oui, mais les jeux, c'est
cher. Le concert, il te coûte si tu vas au concert.
Voilà.
Là, la cérémonie, elle te coûte même
elle
si tu vas pas.
Tout le monde. Olivier,
donc le truc, c'est que au bout d'un moment, on peut faire des choses aussi qui ne coûtent pas.
Non,
il faut pas rayonner le pays.
Alors, moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le début de ton intervention. Je crois que effectivement, on ne mesure pas à quel point c'est extraordinaire d'avoir les JO, et c'est pas
ça,
pour
c'est
rien
génial.
Qu'on les a pas eu depuis 100 ans, n'est-ce pas?
100 ans.
Ouais.
C'est une fête démentielle. C'est le monde qui vient chez toi. Il faut se réjouir d'avoir la chance de pouvoir faire ça quand on est français, que ça vienne. En plus, ça ne va pas être qu'à Paris. Ça va être un petit peu dispatché puisqu'on va se servir d'autres sites. Ça, c'est génial. Et il faut absolument qu'on réussisse. Le problème, c'est tout le reste. Et le tout le reste ne peut pas être géré avec des belles phrases et des petites caresses sur la tête, genre « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». On a besoin d'être assuré. Et oui, c'est flippant quand on voit comment la mairie de Paris est gérée. Oui, c'est flippant quand on voit le contexte social en France aujourd'hui. Oui, c'est flippant quand on mesure l'insécurité qui règne partout en France en ce moment. Je veux bien, moi, je dis pas que ça va mal se passer. Je dis juste qu'à un moment, il va falloir que des gens interviennent, ne nous fassent pas des caresses sur la tête et nous disent réellement comment ça va se passer pour qu'on soit vraiment heureux. Parce que toi, t'es un ancien sportif, t'as connu les JO, t'as été médaillé, t'as tout vu, t'as tout gagné, t'as parcouru le monde entier et tu sais le bonheur que ça peut représenter. Pour qu'on puisse venir avec toi dans ce bonheur-là, il faut vraiment qu'on soit tous rassurés. Que ce soit extraordinaire et pas genre rassurez-vous, ça va aller. Non.
Je pense sincèrement que le travail est effectué. Le problème, c'est que la surcommunication, on peut pas tout te dire sur la sécurité. Mmh. Justement, la sécurité, c'est quelque chose qui reste un petit peu.
Pour l'instant, c'est 3 semaines de stage pour former les mecs.
Trois semaines de stage. En fait, il y a des personnages qui sont centraux depuis le début, qui sont prêts à organiser les jeux, prêts à assurer la sécurité. C'est-à-dire que à chaque point de l'organisation, on a mis des gens importants. Je sais pas s'il est content que je dise son nom, mais le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, qui s'appelle Michel Cadeau, c'est quelqu'un qui sait faire. C'est un ancien préfet, c'est un préfet, et qu'en fait la sécurité, elle est au cœur du sujet. Elle est au cœur du sujet. Mmh. Mais moi, je suis persuadé que nous allons le réussir. Par contre, je suis comme toi, j'ai des inquiétudes. Parce qu'on a toujours peur que ça se passe mal. Mais le problème, c'est que on parle des événements qu'il y a actuellement. La France, c'est pas facile, ce qui se passe actuellement. Et qu'on aura besoin que tout le monde les veuille, ces jeux.
Ça, je suis d'accord
avec toi. Et que tout le monde y participe à ces jeux. Ça veut dire que si tous les Français sont...
Les veulent, que c'est une bonne nouvelle pour le pays.
Mais c'est même pas assez. Un Français sur deux, c'est très bien que ce soit...
On est qu'à 500 jours, et donc ça va, à mon avis, s'améliorer. Julien Damon, vous êtes confiant sur la tenue de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes heureux de voir les JO en France ?
Bon, heureux, oui, je suis content. Confiant, moi, personnellement, oui. Donc, je fais partie des 20% de Français, ouais. Plutôt...
22.
Petit, 22, voilà. 22 valent les flics, 22 valent le préfet cadeau. Formidable.
Donc,
en tout cas, je fais partie des optimistes. Mais ceci dit, la remarque que j'ai à l'esprit, c'est qu'on a plutôt là une illustration du trait caractéristique des Français d'être pessimiste. Si on regarde, je m'en rappelle, mais vous êtes des spécialistes ici, la Coupe du Monde 1998, je pense que un mois encore avant l'inauguration du grand stade, tout le monde était en train de dire marchera pas, le grand stade marchera pas, les grèves de 95 ont foutu la France en l'air, tout va foutre le camp, en plus on va perdre, etc. Si on regarde les Jeux au Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, qui n'est pas une Coupe française, mais les Français étaient là en train de dire marchera pas, tout va foutre le camp, etc.
Il y avait quand même d'autres problèmes aussi.
Non mais à chaque fois il y a plein d'autres problèmes, alors on va prendre le Brésil, il y a d'autres problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes partout.
Les autres problèmes, c'était quand même les droits humains. Enfin,
non, mais ça, c'est valable partout. Voilà. Enfin, avec une intensité variée.
Voilà, non, c'est
oui, mais, pas tout à fait. Mais les droits humains. Les droits humains. Non, mais les droits humains qui sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ok, c'est un sujet, mais les sujets de respect de l'intégrité des gens qui ont monté les stades, etc., etc. C'était un sujet, mais ça n'empêcherait pas, ça ne devrait pas empêcher la bonne tenue des Jeux.
Yael Mellul, vous n'êtes pas très sportive, mais
je. Non, mais moi, j'adore les JO.
Ah bah voilà.
Ah mais pour moi c'est un je ne les rate jamais, c'est exceptionnel, c'est un moment de joie.
Mais vous avez
essayé
de prendre des places ou pas?
Non, j'ai pas. Alors, mais par contre, j'ai vu les prix. Par contre, j'ai vu. Non, j'ai pas essayé de prendre de place. J'ai vu les prix qui circulaient là.
Oui.
C'est un truc de dingue. Moi, je peux pas en fait. Voilà, ça va pas. Parce que moi, j'ai pas envie d'y aller seule en plus. J'ai envie d'aller avec mon fils. J'ai envie d'aller avec des amis.
Tu peux pas. Tu peux pas.
C'est pas possible. Quoi. C'est. Voilà, c'est ça. Ou un rein ou je sais pas. Donc c'est un vrai
débat. C'est pire qu'au Qatar alors.
Parce que les places à 20 balles, c'est un mytho monumental.
Non, mais si c'est pour galérer, j'ai pas envie en fait. J'ai envie.
Épreuve. Oui, pardon,
tir à l'arc à genoux.
Ah, ça, c'est bien le tir à l'arc. Peut-être pas à genoux, mais.
Le lancer de surmulot à Paris.
Non, le 24€, c'est un mytho total. Personne n'en a jamais vu des places.
On a bien fait de. Moi, j'étais contente de recevoir Olivier Giraud.
Non, mais c'est génial, il faut qu'on soit. C'est génial de recevoir le monde, mais il faut que la France soit à la hauteur de l'événement.
Il y a un truc qui est dingue, c'est que moi, je n'ai pas de place.
Ah, on va vous en donner, on est
partenaire. Je n'ai pas de place.
C'est vrai qu'on est partenaire, Estelle?
Ah, bah oui.
Bon, je savais même pas.
Ah là là, génial. Enfin, je crois, je dis ça.
Et c'est peut-être parce que j'ai participé à plusieurs jeux que, en fait, ce que j'attends des jeux, évidemment, j'ai eu la chance de voir une fois une finale du 100 mètres. Et à Londres, c'était exorbitant les prix pour aller. Et j'ai eu la chance de pouvoir la voir. Je l'ai eu au dernier moment. Et c'était extraordinaire. Mais ce que j'ai aimé le plus dans les jeux, et surtout, c'est ce que je crois dans les jeux qui va. Y avoir à Paris, c'est que les Jeux vont être à l'intérieur de la ville. On a un site qui est extraordinaire. On parle de souvent des autres pays, comment c'est organisé. Mais la configuration de Paris, on parle souvent des équipements. Le monument, c'est Paris. Et que vouloir rendre Paris accessible à tous et que le monde entier y vienne et que les Jeux soient à l'intérieur de cette ville, je trouve ça extraordinaire. Et qu'on verra, parce que les Français, on est des pessimistes. Et c'est peut-être pas mauvais d'être pessimiste, parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Parce que le fait qu'on soit pessimiste, eh ben, il y aura un accent encore plus mis sur la sécurité. C'est-à-dire que ces points-là, ils seront surveillés de très, très, très près. Donc, je suis pessimiste, comme tous les Français, parce que, voilà. Mais, je suis optimiste sur la réussite de ces Jeux. Et que, ce qui est très bizarre, c'est qu'on va enfin rentrer dans les Jeux. C'est-à-dire que les 6 ans qui sont passés, c'était des positionnements, c'était la construction, savoir qui allait diriger. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là, on en est vraiment, on est en direction des Jeux. On va parler un petit peu plus de sport également, mais les équipements.
Combien de médailles? L'objectif?
Mais ça, je comprends pas ça.
J'étais sûr.
C'est un truc que je ne comprends pas.
Non, mais ça, il a raison.
C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont capables de dire les médailles qu'ils vont gagner, ils sont très, très forts. Et que, bizarrement.
Bon, les Anglais avaient fait un programme qui a été respecté.
Et
nous aussi, d'ailleurs, on l'a fait.
Il a été respecté, sauf que, comme on en parlait tout à l'heure, les Anglais ont fait des choix. Nous, on fait ce choix d'être multisport.
Ouais, c'est-à-dire ils avaient privilégié des disciplines pour briller.
Exactement. On aurait pu faire ce même choix. Après, derrière, il faut pas occulter quelque chose, et les athlètes vont s'en rendre compte. C'est pas spécialement un bonheur entier d'être athlète et de concourir en France. Parce que la pression sur eux, elle va être énorme.
C'est incroyable.
Mais c'est pareil pour tous ceux qui organisent.
C'est pareil pour les athlètes.
Là, pour le coup, tu nous fais le sportif français. Toi qui as tout gagné et qui a bien géré la pression, t'es en train de nous trouver des excuses déjà pour...
Tu verras, c'est pas simple. Donc, prévoir les médailles, je ne sais pas comment on fait. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup, parce qu'on dit toujours les titres que t'as gagnés, mais je peux te dire, j'ai beaucoup perdu en me disant, on va peut-être aller au bout, mais tu ne sais pas où tu vas aller. Alors ceux qui prévoient des médailles, franchement, je les laisse faire.
Ouais, mais vous reviendrez sur le plateau, et puis on fera J-400, -300, -200, pour faire des petits points.
Avec le préfet Cadeau, c'est une excellente idée que d'évoquer les sujets de sécurité dont on peut parler globalement, sans entrer dans les détails qui doivent rester de l'ordre du
rendez-vous. Oui, invitons Monsieur Cadeau.
Merci beaucoup, Olivier Giraud, en tout cas, d'avoir été avec nous. On est à J-500 avant les Jeux Olympiques. Fiasco ou succès pour l'instant, Rémi?
Olivier, il faudra revenir dans Estelle Midi. Pour 81% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, c'est promis à un fiasco.
On a perdu 1%, dis donc.
Non, mais il va falloir revenir.
Dans un instant, écoutez, on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment à Paris, c'est le sujet des poubelles. Et bien sachez, et ça c'est une bonne nouvelle pour les Jeux, qu'il existe désormais des poubelles intelligentes, Olivier, donc ça pourra peut-être servir pour 2024. En tout cas, c'est Anthony Morel qui va nous en parler dans un instant. À tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 51 dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et c'est le moment de parler nouvelles technologies, progrès. On n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et on parle d'un sujet ô combien d'actualité avec vous aujourd'hui, Anthony, c'est celui des poubelles, avec la grève des éboueurs. Mais ces grèves pourraient peut-être être évitées grâce aux poubelles intelligentes.
Oui, la poubelle, cette invention éminemment parisienne, faut s'en souvenir, hein. Le préfet Eugène Poubelle, 1883, c'est lui qui prend un arrêté municipal pour le ramassage des ordures. Donc voilà, c'était peut-être qu'il se retourne dans sa tombe en ce moment, mais enfin, en tout cas, c'était lui à l'origine. Ouais. Et cet objet de notre quotidien, il est en train de se réinventer à la sauce high-tech. Des poubelles intelligentes, des poubelles connectées. Je vous donne trois exemples concrets de ceux à quoi ça peut servir. Par exemple, il y a plein d'expérimentations en France de poubelles où on va intégrer des capteurs électroniques et en fait, on va analyser en temps réel le taux de remplissage de la poubelle. Et quand la poubelle s'apprête à être pleine, à ce moment-là et à ce moment-là seulement, elle va envoyer une alerte au service de la voirie ou de la municipalité pour qu'ils viennent les récupérer. Ça optimise, si vous voulez, les trajets. Ça permet de pas devoir trop se déplacer. Donc, c'est plus facile, on va dire. Ça va faciliter le travail des éboueurs. Ça, c'est la première chose. C'est plutôt pas mal. La deuxième chose, c'est testé, par exemple, à Tours. La deuxième chose, alors ça va peut-être moins vous plaire, parce qu'en tout cas, ça peut faire débat. C'est des poubelles qui sont équipées de puces électroniques et qui vont être une sorte de mouchard. Ces poubelles, elles vont savoir qui jette quoi. C'est-à-dire quel foyer jette quelle quantité de déchets. Et vous allez devoir payer en fonction de ce que vous jetez. C'est déjà testé dans plein de communes. On appelle ça la tarification incitative. En France, les Américains disent « pay as you throw », payez comme vous jetez. Je trouve que c'est plus cash et ça dit bien ce que c'est. Mais effectivement, là aussi, c'est rendu possible grâce à la technologie. Dernier exemple, ce sont des poubelles qui vont se trier, qui vont trier les déchets automatiquement.
Ça, c'est bien.
Vous mettez le déchet sur la poubelle et en fait, il va comprendre si c'est une canette ou une peau de banane. Et il va le mettre dans le bon compartiment. Et en plus de ça, petit point bonus, vous avez un compacteur intégré. Je sais que vous êtes une fan de compactage.
J'adore ça.
Ben voilà. Et ben là, la poubelle, elle le fait pour vous.
Je passe ma vie à compacter.
Mais mine de rien, ça fait gagner énormément de place. Bien sûr. Voilà, quand vous compactez les canettes, les bouteilles, ben mine de rien, là aussi, ça permet d'avoir moins de passage de la part des éboueurs.
Alors moi, ce que j'aimerais, mais je sais pas si vous avez ça en stock, c'est des poubelles qui se vident toutes seules,
oui. Ah oui. Alors là, c'est vrai que ce serait très pratique en ce moment. Alors j'ai ça en stock, ça va peut-être prendre quelques années. Ouais, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde non plus. La solution à la grève, elle existe, elle est testée depuis quelques années, entre autres par Volvo. C'est le camion poubelle autonome, c'est-à-dire sans intervention humaine. Le camion poubelle,
il va venir dans ma cuisine.
Alors il va pas venir dans votre cuisine, non. Mais il peut venir sur le pas de votre porte et récupérer de manière complètement autonome, c'est-à-dire c'est comme une voiture autonome, il se débrouille tout seul, il se débrouille il analyse son environnement, il détecte qu'il y a une poubelle sur le bas-côté, il s'arrête et là vous avez, alors pour les tests c'est un être humain, mais vous pouvez avoir des petits robots qui vont sortir de l'arrière du véhicule, se saisir de la poubelle, les mettre dans la benne, les vider.
C'est quelqu'un qui vient jusque dans sa cuisine pour lui prendre.
Je veux pas sortir les poubelles.
Ah oui, non mais là d'accord. Alors c'est encore autre chose.
Domestique.
Oui, c'est ça. Alors cela dit,
un enfant en bas âge.
Mais je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté
enfants ne veulent pas sortir la nouvelle non plus.
Mais je vous avais présenté un robot assez incroyable au CES de Las Vegas qui faisait précisément ça, qui sortait les poubelles pour vous.
Cher.
Mais c'était très cher. Écoutez, bah voilà. 3000 euros. Ah bah oui, bah alors c'est
ah, ça oui, 3000 euros pour se faire sortir.
Non,
les
mais
poubelles,
il faisait plein d'autres choses.
Je crois que je vais le faire moi-même.
Il faisait plein d'autres choses, mais effectivement, en tout cas, là pour le problème qui nous occupe, effectivement, on va pouvoir avoir des camions poubelles qui se débrouillent tout seuls. Et là aussi, sans parler de les remplacer, ça pourrait faciliter la tâche des éboueurs. En gros, ils pourraient avoir moins de boulot à réaliser, quoi.
Oui. Et vous avez également une application à nous proposer. Alors ça, c'est génial. C'est pour tous les déchets qui traînent par terre.
Oui. Alors c'est une application qui s'appelle Trashback, qui a été inventée par un Français, et elle est très maligne. Le principe, en gros, c'est qu'on va vous récompenser pour collecter les déchets qui traînent dans la rue et les mettre à la poubelle. En gros, vous détectez, je sais pas, vous voyez une canette qui traîne, vous la prenez en photo sur le trottoir, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle, vous reprenez une photo quand elle est à la poubelle, et à ce moment-là, l'application va dire voilà, c'est bon, vous avez fait votre bonne action entre guillemets, elle va vous donner des points, et ces points sont convertibles ensuite en bon d'achat.
Là, il y a une fortune à se faire à Paris. Là.
Alors, il y a une en ce moment, je sais pas si ça fonctionne, mais ouais, ouais, effectivement. En tout cas, il y a un gros potentiel, et c'est assez malin. Alors, j'ai fait le calcul rapidement. Par exemple, pour une bouteille en verre que vous récupérez, vous gagnez 6 points et il faut 150 points pour avoir un bon d'achat de 15 euros sur un smartphone par exemple, donc c'est pas mal.
C'est pas mal,
ça fait voilà une vingtaine de bouteilles ou 20-25 bouteilles et vous êtes bien.
20 quoi. Bouteilles pour 150 euros,
25 bouteilles. Alors ouais, sachant que les bouteilles en verre c'est très bien rémunéré, parce que c'est plus, en fait plus le déchet est long à se dégrader dans la nature, mieux, plus vous gagnez de points. Et en fait, le verre, c'est très compliqué, visiblement.
Tous les enfants vont dire à leurs parents, maman, t'as des bouteilles en verre, je vais les amener à la poubelle. De la consigne, quoi.
Je faisais ça quand j'étais petite. Bah oui, génial.
Enfin, là, c'est pas la consigne, parce que c'est vraiment des trucs qui traînent par terre et que vous ramassez dans la rue, en fait.
Ouais. Merci beaucoup, Anthony. On parle de quoi demain?
Demain, on va parler d'une petite application qui fait polémique depuis quelques temps. C'est un outil, une intelligence artificielle qui permet de cloner n'importe quelle voix, mais avec un niveau de réalisme absolument dingue.
C'est très dangereux, ça.
Bah, c'est potentiellement, il y a un certain nombre d'arnaques qui sont en train de se mettre en place, mais le résultat est dingue. Vous prenez une minute de son de n'importe qui et vous pouvez imiter sa voix, recopier sa voix, lui faire dire n'importe quoi.
Moi, jamais personne n'a réussi à m'imiter et beaucoup ont essayé.
C'est vrai.
Parce que là, ce sera possible.
Oui, écoute, ce sera possible. Là, pour l'instant, ça fonctionne avec les Américains, surtout avec l'anglais. Ah, mais ça va arriver en français probablement très rapidement.
Merci, Anthony. On retrouve évidemment votre chronique tous les jours, 12h50 dans Estelle Midi et puis en podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur toutes vos applis de podcast. Dans un instant, tiens, on continue à parler des éboueurs avec la grève qui se poursuit dans plusieurs villes de France. Faut-il privatiser certains services municipaux comme le ramassage des poubelles, les jardiniers ou encore les cantines scolaires? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite sur RMC.